saine cause. Du bien commun et d'un monde vivable. Émission présentée par André Duny.
Bonjour, André Duny, La Saine Cause, Radio Couleur Chartreuse. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vais faire état de mes petites conversations avec une voisine, Marie, et essayer de voir comment on peut rebondir dans les discussions actuellement, parce que après le Covid, je trouve qu'il y a dans les esprits tout et son contraire, un petit peu le fameux « en même temps du président, en même temps ». On dit qu'on va lutter pour le climat et en même temps on va sauver les avions. En même temps on va recevoir Greta Thunberg et en même temps on va voter au Parlement une mesure totalement opposée. Alors les esprits sont désorientés, on est en pleine fascination de ce qui arrive. Donc je discutais et elle me dit « Marie, écoute André, mais c'est le consommateur qui fait l'achat ». Alors le consommateur fait l'achat. Si on consommait pas le dimanche matin à Super U ou à Leclerc, ça se vendrait pas et le système s'effondrerait. Bon, on voit ça un peu partout. Donc, est-ce que vous voulez bien qu'on examine cet argument ? Par exemple, qu'on voit un peu partout, notre consommation est plus puissante qu'un bulletin de vote. Seul consommateur qui aurait entre ses mains le pouvoir d'annuler le système. Pour nombre de militants écolos, le caddie est devenu le véhicule prioritaire et privilégié pour le grand soir. Les luttes collectives sont rangs d'accessoires et sont obsolètes. Alors, peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse, je le lui dis, boycotter les marques les plus condamnables. On a culpabilisé l'individu, seul responsable de sa dette écologique envers la société. En fait, André, tu vois bien, tu prends pas ton vélo. Je l'avais dit dans la dernière émission pour aller de Lépin à Pont-de-Beauvoisin. Je me suis dit, je vous mets au défi de prendre un vélo dans les côtes, là-bas, où il n'y a aucun bas-côté, vous passez direct au fossé, quand les SUV, aussi énervés que des guêpes, en plein été, quand les fruits sont mûrs, je vous garantis que vous ne reprendrez pas deux fois votre vélo. Et puis, j'ai plus l'âge où je peux monter des côtes sans assistance. Être un bon éco-citoyen, donc, nous dit-on, et je dis à Marie, ce serait acheter responsable, consommer bio, investir éthique, s'équiper renouvelable, enfin bref, ça serait la vraie résistance. Eh bien, arrêtons de consommer plastique, qu'elle me dit. Alors je lui dis, tous des cons, on a 400 millions de tonnes de plastique produits chaque année, parce que, on a 6 milliards d'imbéciles qui consomment du plastique. Et on s'adresse à leur conscience écologique pour dire « arrêtez avec le plastique ». Du coup, on se sent tous coupables. Qui n'a pas de plastique dans sa consommation et qui n'en jette pas ? Ah oui, mais sur les 400 millions de tonnes, ou 500 millions je crois, qui sont produits chaque année, vous rendez compte que ces 400 millions de tonnes, les trois quarts filent dans l'océan. Très peu de plastique est vraiment recyclé. Puis autour de la Méditerranée, tous les pays pauvres, le Liban, l'Algérie, etc., ils balancent direct des tonnes d'ordures dans la mer. Alors je lui dis, mais tu penses pas que culpabiliser l'individu, ça évite de condamner le système ? C'est quoi le système ? Alors elle me dit, c'est toi le système. C'est toi qui veux t'enrichir, c'est toi qui veux utiliser le plastique, c'est toi qui... Ah bon ? C'est toi qui a... acheter une maison, c'est toi qui a... j'ai dit oui, j'ai acheté une maison à 65 ans, d'accord. J'étais tout le temps en location. Bon, du coup, je me trouve tout coupable, je montrais la lune en disant, si on produit 400 millions de tonnes de plastique, c'est pas les individus, c'est pas les consommateurs. Il y a bien une puissante industrie mondialisée qui organise avec des centaines de millions de tonnes de pétrole transformées en centaines de millions de tonnes de plastoche. Il y a peut-être bien quelqu'un qui a intérêt, il y a peut-être bien une organisation industrielle, il y a peut-être bien une croissance, une productivité, des actionnaires. Ah ben non, 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 si t'arrêtes de consommer, tout ça, ça s'arrête. Ah bon ? Alors, l'individu qui se sent coupable se coupe d'une action puisque ce n'est plus que l'action individuelle qui compte. Hein ? Voilà, on se met donc dans les petits gestes. Hein ? Aujourd'hui, combien t'as économisé de bouteilles ? Ben voilà, j'essaye d'économiser des bouteilles. Et j'imagine que je fais un acte révolutionnaire, plus efficace et puissant que l'approche par la structure, hein, démonter le système capitaliste, changer les lois, les règles, prendre le pouvoir communal, faire des circuits courts, n'utiliser que des bouteilles en verre. Ah non, mais elle me dit, tu comprends, dans mon entreprise, les bouteilles en plastique, on avait des objectifs. Elle dit oui, mais qui avait ces objectifs ? Ah ben c'était mon patron. Ah oui, mais c'était au profit de qui ? Eh ben c'était de ceux qui financent la production. Et c'est qui les financeurs de la production ? Eh ben c'est des actionnaires. C'est quoi des actionnaires ? C'est déjà riches, hein, qui mettent 100 millions dans l'entreprise ou 50 millions ou 10 millions en vue d'en retirer 15% de plus. Hein. Si tu mets 1 million, à la fin de l'année, en dormant, comme disait l'autre, tu as 150 000 euros de plus dans ta poche. T'en mets 100 millions, ben t'as 1 million 500 000 euros de plus dans ta poche. Si tu mets 1 milliard, t'as 150 millions net de bénéfices, de quoi te payer un petit yacht en Méditerranée. Alors imaginez que l'acte de consommer puisse être révolutionnaire, eh ben c'est un rêve pour les industriels. N'est-ce pas ? Parce que jusqu'à preuve de contraire, ce sont nos conditions d'existence elles-mêmes qui sont déterminées par l'organisation du système économique et les normes sociales dominantes. C'est pas l'inverse. Personne n'a décidé, disais-je à Marie, qu'il fallait se déplacer avec des voitures. Qui a décidé parmi les Français 1900 à 1920 que la bagnole devait être le moyen de déplacement? Ils en avaient rien à carrer. Je vous explique. Il y a des dizaines de livres qui sont sortis qui rappellent toute l'histoire de l'invention de la bagnole et de son développement. Les 99% des Français, sauf les 1% les plus riches, en 1920 disaient « ça pue, ça tue, ça pollue ». Alors ils ne disaient pas « pollue » à l'époque. Ils disaient « ça fume mauvais, ça tue les poules ». Ça tue nos enfants, ça traverse les villages, et c'est arrogant la bagnole, parce qu'il n'y a que les riches qui peuvent s'en procurer, et ils passent là en nous narguant avec leurs trucs qui fument, qui pètent et qui, on va dire, rotent, parce que ça rotait à l'époque les moteurs. Personne n'a voulu de la bagnole individuelle, c'est bien l'industriel et les actionnaires de Citroën qui ont fabriqué les premières Citroën. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après, étant riches, ces actionnaires ? Ils ont acheté les élus pour qu'on goudronne. Si vous voulez, les États-Unis étaient le pays où il y avait le plus, dans les années 1900, de tramways électriques. Il y en avait dans tous les quartiers, dans toutes les villes. Tramways électriques. Alors, certains n'étaient pas écolos, hein, puisque c'était des usines à charbon qui brûlaient pour faire de la vapeur d'eau, pour faire tourner les turbines, pour faire de l'électricité. Mais beaucoup étaient parfaitement écologiques. Vers Los Angeles, par exemple, il y a des barrages, et c'était l'eau des fleuves, notamment du Colorado, aujourd'hui à sec, qui alimentait les tramways. Alors je ne dis pas que les barrages étaient écolo, hein, mais c'est en tout cas moins mauvais pour l'avenir des poumons de nos enfants et l'avenir de la planète que les fumées noirâtres qui sortent des usines à charbon destiné à être brûlé pour faire de la vapeur d'eau, pour faire tourner les turbines, pour faire l'électricité. Hein. C'est l'inverse d'un moteur, hein. C'est bobiné en sens inverse, donc ça produit l'électricité au lieu d'en consommer pour tourner. Eh bien, on fait tourner justement pour produire l'électricité. Et dans un moteur, c'est l'inverse, l'électricité fait tourner le moteur. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Ford a produit en série. Ford, avec l'aide de milliardaires, il était lui-même milliardaire, était un industriel qui a produit en série les premières voitures T4 Ford et qui a voulu que le peuple américain gagne mieux sa vie, notamment à commencer par ses ouvriers, afin d'acheter des voitures. Parce qu'il a dit, si on fait quelques Citroën comme en France, il n'y a que les riches qui peuvent s'en payer. Et finalement, on gagne beaucoup par voiture, mais comme on en produit peu, vu qu'il n'y a pas des milliards de riches, bah finalement, on ne fait pas tellement de bénéfices. Tandis que moi, aux États-Unis, je vais rationaliser le travail et je vais produire des millions de bagnoles à la chaîne. Donc on a transformé des braves gens, notamment des immigrés, en robots pour visser des boulons sur des chaînes et se suicider tellement ils étaient mal dans le boulot, hein, comme quand on fabrique les Apple, les smartphones Apple, où il y a déjà eu 800 jeunes des usines chinoises de Shenzhen qui se sont suicidés, parce que dans ces usines, il y a le rez-de-chaussée qui est l'usine de montage, et puis vous avez dans les étages des pioles de 9 mètres carrés avec des jeunes de 20 ans, hein, et surtout des jeunes femmes de 20 ans, aux mains très dextres, et qui soudent les composants, enfin qui font marcher les machines, parce qu'ils ne soudent plus directement, qui font marcher les machines et qui vérifient chaque iPhone, smartphone, tout ce qui a détruit le monde est résumé dans ce petit engin. Et voilà, et donc ce système économique de production, ce sont des riches qui investissent des millions dans une usine à chemises. Quand vous fabriquez des millions de chemises, alors qu'avant ça se faisait par des artisans, on ajustait sur votre embonpoint. Et si vous en produisez des millions en mettant des gens à la chaîne, il est évident qu'il faut que ça se vende. Or, ça n'est pas le consommateur qui fait vendre, c'est la publicité à l'égard du consommateur qui s'attaque directement à son cerveau. Vous mettez une belle poitrine et vous mettez une chemise derrière, et voilà que aussitôt se connecte dans le cerveau le désir de posséder la belle poitrine et la chemise. Hein, je parle pour les femmes, idem pour les hommes. Vous mettez une bagnole en arrière-plan avec une créature splendide que tout le monde aurait envie de fréquenter la nuit, et voilà que la bagnole est parée de toutes les vertus. Et ben c'est comme ça qu'on a conditionné par. Ça s'appelle des réflexes conditionnés. Hein. On peut éduquer des pigeons à voyager dans certaines directions, on peut éduquer des animaux à être des animaux savants, précisément en leur donnant des récompenses à chaque fois qu'ils font le bon geste. Mais c'est totalement mécanique. Eh bien, la publicité s'est adressée à notre inconscient très profond, là où nous avons des désirs à assouvir, et remplace l'objet du désir par le substitut à cet objet. La bagnole, la chemise, le smartphone. Et le résultat, c'est qu'on arrive à être complètement dingo de consommation. En clair, le consommateur est fait par le système de production. C'est pas le consommateur qui fait le système de production, disais-je à Marie. Tu vois bien que les bagnoles aux États-Unis, personne n'en voulait non plus. On avait des bons tramways dans tous les quartiers électriques propres, qui fumaient pas, qui mettaient pas, comme en France, 70 000 morts par an. Hein, de bronchiolite, de bronchite, de maladies cardiovasculaires. Sachant que la moitié de ces morts, excusez-moi, hein, je ne sais si je l'ai déjà dit, c'est pas forcément seulement avec le NO2, c'est-à-dire le dioxyde d'azote. L'azote est dans l'air, hein, et passant dans les moteurs, il prend l'oxygène à haute température, il devient une molécule, l'oxyde d'azote, le dioxyde d'azote, qui mélangé à l'eau, fait de l'acide nitrique. L'acide nitrique, ça tue. Ben, ces gaz-là dans les poumons mélangés à l'humidité des poumons, ça vous tue les poumons. Ça tue les enfants. Mais surtout, c'est que les freins des bagnoles ainsi que les gaz d'échappement contiennent des microparticules de suie qui s'accumulent dans le sang parce qu'elles sont tellement minuscules qu'elles passent à travers les bronches et les bronchioles jusque dans le sang. Et le sang, eh ben, il y a des caillots qui se forment dans le cœur, et des gens qui opèrent, ils vous montrent pas trop ça, hein. Mais des chirurgiens racontent qu'il y a des caillots, c'est rien que de la suie qui obstrue le cœur. Voilà ce qui tue. Dans les maladies cardiovasculaires, une bonne partie est déterminée par l'accumulation de suie dans notre circulation. Alors, est-ce que Marie, tu crois que les consommateurs français ont choisi la bagnole Ben oui, peut-être un peu quand même quelque part, parce qu'on leur a dit, voyez, la bagnole, c'est la liberté, c'est, vous serez comme les riches, vous pourrez ne rien foutre et gagner des ronds, partir sur la Côte d'Azur et vous serez heureux National 7. Ah, ben oui, parce que vous partez quand vous voulez, mettez la valoche dans le coffre et vous partez. Et même vous pouvez dormir dedans, même faire quelques galipettes, qui pour les jeunes est un rêve, puisqu'on n'a pas beaucoup d'endroits pour ce genre de choses. Ce qui n'est pas vrai. On a toute la nature et les cabanes qu'il y avait auparavant et tout, mais non, et les grottes. Mais non, mais voilà. Donc on a vendu du rêve de liberté à des gens qui n'avaient pas forcément les moyens de se piéger. Et maintenant, le piège se referme. Ça va coûter de plus en plus cher, ça tue de plus en plus. Plus on fait des voitures écologiques, plus on en produit, et plus on en produit, plus ça pollue. Parce que si vous faites une voiture qui pollue 10 fois moins qu'une autre, c'est bien. Sauf que du coup, on va en acheter 10 fois plus. Une pour maman, une pour papa, puis la mémé, finalement, elle peut bien s'en payer une pour faire le trajet tranquillou. Voilà. Du coup, il y a l'effet rebond. Alors, je disais tout ça à Marie, je lui dis, mais oui, on a été imbécilisés. Mais qui possède la publicité? 700 milliards par an de publicité, c'est 700 000 milliards de publicité par an dans le monde. Énorme, gigantesque. Non, je me trompe, excusez-moi. Un peu fatigué, c'est bien 700 milliards de publicité par an dans le monde. 700 milliards de dollars. Mais ils viennent d'où? C'est pas moi qui ai produit la publicité. Ben, la publicité, elle est faite par l'industriel qui veut forcer les gens qui n'ont pas forcément décidé de prendre la bagnole, d'arrêter de prendre le tramway. Et du coup, eh ben voilà, ils découvrent que ça donne apparemment plus de liberté. Et c'est là qu'Illich calcule, dans, je crois que c'est son bouquin « La convivialité », il calcule que lorsqu'on se paye une bagnole pour aller de Lyon à Paris, eh bien, si on regarde tous les frais, l'assurance, la vignette, le permis, le machin, le truc, les réparations, la tôle en boutique quand il y a un petit accident, les pneus à changer, les vidanges à faire. Outre que c'est hors de prix, une C3, moi je n'ai acheté que des bagnoles d'occasion dans ma vie, que de l'essence et que du gaz. Hein. Et là, je veux encore racheter une bagnole au gaz, ça pollue 60 fois moins. Hein. Je vous rappelle que la Sandero, une bagnole au gaz, sans lève-glace électrique, sans module électronique, enfin du moins dans l'ancien modèle, ça a l'avantage que vous avez une voiture parfaitement fiable et qui pollue 10 fois moins et qui vous coûte 2 fois moins cher au kilomètre. Enfin, pas 2 fois moins cher, 2 fois moins cher en carburant, hein, pas 2 fois moins cher parce qu'il faut quand même l'acheter. Eh bien, quand vous regardez toute cette industrie, elle a payé d'autres industries, c'est-à-dire l'industrie du rêve, l'industrie culturelle, l'industrie de la publicité, c'est une véritable industrie. On paye des centaines de propagandistes, hein, c'est de la propagande, pour dessiner ce qui va séduire les gens. Et qui a décidé ça? Mais pas l'acheteur. Au contraire, on fabrique l'acheteur qui va décider d'acheter l'automobile. Voilà. Et dans mon patelin, je me souviens, le grand rêve, c'était d'abord le vélo. Le vélo, les sacoches, une tente récupérée de l'armée américaine, et hop, on s'en va le week-end, heureux comme des papes, campés en bande organisée. Et là, les couples se forment. À l'époque, on était beaucoup plus pudiques, hein, on couche pas le premier soir. Bon, et on gratte la guitare, et c'est une vie intéressante, on discute. Puis arrive le premier vélo électrique. J'ai vu arriver ça. Ah, il y a un moteur qui est dans le cadre, puis la mobilette, alors qu'il organise ça mieux avec un petit carénage, hein. Et puis enfin, le scooter. Le scooter, c'était le rêve, bien que ça pollue un peu. Et puis, après, la bagnole. Et le piège se referme, parce que les 800 millions de bagnoles sur la planète contribuent je sais pas, mais au moins 20% au total, quand on parle de la production du pétrole, le transport, le raffinage, le transport par bateau, le transport ensuite par camion de l'essence, la distribution et tutti quanti contribuent pour au moins un cinquième à rendre la planète invivable. Vous avez vu ça, 34 degrés. Je disais donc à Marie que la solutionnisme individuel et la stratégie des petits gestes où, qui consiste à économiser du plastique, à pas prendre trop sa bagnole, à s'acheter un vélo, etc., c'est utile pour lutter contre ce qu'on peut appeler, je lui dis, on sent mieux, la dissonance cognitive. La dissonance, c'est quand on a le sentiment et le malaise énorme qu'on a tous qu'on ne fait pas ce qu'il faudrait pour le climat. Parce qu'on nous a tous dit qu'on pouvait faire quelque chose pour sauver la planète et on se rend compte qu'on ne la sauve pas. Tout s'aggrave, partout. Vous l'avez bien vu avec le Covid, pendant le confinement, ce qui se passait. Et donc, on avait du temps pour réfléchir, et là, on voit le résultat quand même, hein, 34 degrés. En Savoie, un 25 juin, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Eh bien, et même on ne l'a jamais vu. Donc, il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer, c'est qu'on risque de tous crever à milliards dans une planète étuve ou cocotte minute, parce que l'ensemble des fumées forme une espèce de toile comme une serre, hein, comme une toile de serre autour de la planète qui empêche la chaleur de s'évacuer. Voilà, alors j'expliquais ça à Marie, et donc voilà, c'est pas la solution individuelle, puisque nous en tant qu'individus, on est en quelque sorte non pas prisonniers, si on est un peu prisonnier du système. Elle dit, mais oui, mais les bouteilles dans mon entreprise, tu comprends, le plastique, c'était beaucoup moins cher. Elle dit, bah oui, Marie, le plastique, c'était moins cher, parce que c'est moins cher à fabriquer. Ça, c'est sûr que le verre, hein, le verre, il faut chauffer à je sais plus combien, 700, 800, 900 degrés. Et puis, voilà, c'est plus lourd. Alors, on met les sirops, les confitures, tout dans du plastique, le miel, etc. On fait des barquettes à tour de bras. Et tout le monde trouve que c'est commode et efficace. Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte que c'est un désastre, parce que les produits chimiques comme le phtalate, le bisphénol qui rendent transparent et souple le plastique, eh ben, sont des perturbateurs endocriniens, voire même des cancérogènes. Donc on donne à nos enfants une barquette, sauf que si elle a pris un peu la chaleur, autour de 30-40 degrés, eh ben, ces saloperies qui sont dans la fabrication passent dans l'aliment et vous font énormément de malformations, d'allergies, enfin bref, des problèmes de santé.
Pas et futurs sont partis en garbal, on gâte, accidenté entre les roues et les arts. Sinon, mais les blindés, etc. Ta roue privilège coupée de haut en bas. C'est une image que l'on ne maîtrise pas. La torpeur d'ici, la révolte là-bas. Jeter sa pierre hors du pseudonymat. Cogiter dans sa cage comme un putain de puma. En rouge sur noir, je griffonne quelques lignes. Marque un silence ou deux pures sort de l'abîme. Je reviens toujours de loin, j'ai rallumé le portable. Tape de proximité, tente de rester joignable. J'ai un penchant pour les objets tranchants. Les salles enfumées, les récits sanglants. Arbore firmant d'épaisses bagues en argent. La gueule charbonneuse, elle est très vieillissante. Passer ce mur, il ne répond pas. On a brûlé des quais sur les dieux des toits. Rapides embardés, leurs chiens aux abois. On cessera de souffrir quand le temps s'arrêtera. Demain sera-t-il à la couleur du ciel, le feu, la glace, la grisaille éternelle. Empliront-ils l'air de cyanure? Nous mettront-ils entre quatre murs? Pas ces futurs sont partis en garbane, en gâte, accidenté entre les roues et les arts. Sinon, mais les blindés, etc. Ta roue privilège coupée de haut en bas. C'est une image que l'on ne maîtrise pas. La torpeur d'ici, la révolte de là-bas. Jeter sa pierre hors du pseudonymat. Cogiter dans sa cage comme un putain de puma. J'ai plus mes emplettes sur le marché des drames. De la tonitruance, j'étreins toujours la flamme. J'ai des crachats en réserve, que mon insolence me desserve. Je croiserai ces démons à qui j'ai refilé une clope au détour d'une ruelle là où brûle un peu de feu. Quel que soit le nombre d'années de vie dont j'écope, il restera un peu de place pour eux au fond de mes yeux. Répondront-ils de leurs actes lorsque grondera la foule? Leur silence est intact et les flics se défoulent. Pas ces futurs sont partis en garbal, en gars accidenté entre les roues et les arts. Sinon, mais les blindés, etc. Ta roue privilège coupée de haut en bas. Que l'on ne maîtrise pas, la torpeur d'ici, la révolte là-bas. Jeter sa pierre hors du pseudonymat, cogiter dans sa cage comme un putain de puma. Les futurs sont partis en garbal, en gars accidenté entre les roues et les arts. Sinon, mais les blindés, etc. Ta roue privilège coupée de haut en bas. C'est une image que l'on ne maîtrise pas, la torpeur d'ici, la révolte là-bas. Jeter sa pierre hors du pseudonymat, cogiter dans sa cage comme un putain de puma. Cogiter dans sa cage comme un putain de puma.
Donc, on produit pas cher les bouteilles de plastique. Mais je lui disais, Marie, te rends-tu compte que ma mère, elle collectionnait toutes les bouteilles en verre et elle se faisait rembourser une consigne. Et avec les consignes, elle me payait mon cadeau de Noël. Bon, on va pas revenir à la consigne. Bah si, parce qu'une bouteille, lui disais-je, une bouteille de verre, ça sert 1000 fois. Une bouteille de plastique, tu la balances. Ça coûte pas cher à fabriquer, ça coûte très très cher à recycler et encore pire, très cher aux animaux marins et à la biodiversité. Ce qui nous fait vivre, nous, et qui est en train de nous tuer, c'est le pétrole, les gaz de combustion et les plastiques partout, et les produits chimiques pour cultiver sans insectes et ainsi de suite. L'horreur. Et du coup, comment dire ? On a été habitué à l'extrême facilité, comme des enfants drogués, tout et tout de suite. Maman, je veux ça. Alors, vous êtes un gamin en grande surface, c'est l'horreur, la barre chocolatée, le ceci, le truc qui clignote, le plastoche, le truc qui a de la couleur. Mais oui, mais parce que les enfants eux-mêmes voient ces images sur leur smartphone ou sur leur tablette qu'on leur donne dès 3 ans, comme des biberons, ou à la télé qu'ils regardent avec leurs parents, avec la pub, insidieusement infiltrée dans leur cerveau comme le pire des poisons. Bilan des courses, on achète, et après on se sent très très mal. Aujourd'hui, l'espèce humaine se sent prisonnière d'une planète étuve, se sent prisonnière des plastiques partout, des pesticides. Bon, et alors ? Eh ben, on se dit qu'il faut faire quelque chose pour la planète et on retombe dans les gestes individuels. Et puis, on se rend compte que les gestes individuels servent à rien. Alors, on passe aux gestes collectifs. Alors, c'est quoi les gestes collectifs ? Ben, voilà. C'est qu'il faut rappeler, Marie, que toutes les infrastructures et tous les objets matériels qui nous entourent, même les produits verts, même Internet, tous les services qui nous transportent, nous chauffent, tout ce qui diffuse de l'information, bref, suppose des ressources naturelles transformées avec de l'énergie. Tant qu'on a 1 litre de pétrole, on a 25 esclaves. Pour stimuler la croissance, le système capitaliste dit qu'il faut consommer plus, puisque lui, ce qu'il fait, c'est qu'il avance des milliards pour faire tourner une usine en espérant gagner des dizaines de milliards sur ce milliard si la production se vend. Donc il faut qu'à tout coup, si vous lancez une usine, il faut que ça se vende. Sinon, c'est la faillite assurée. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le système est en faillite. Il y a surconsommation de tout, il y a pollution de tout, et il y a diminution des ressources de tout. À peu près de tout. Avec le charbon, le pétrole, le gaz, la quantité d'énergie accessible par personne a cru exponentiellement et a fait notre richesse. Mais elle fait aussi elle va faire notre déclin et notre mort si on ne change pas de système économique. Mais oui, tu vois, ce n'est pas qu'une affaire de choses individuelles. 52% des Français qui l'eût cru. Moi, il y a 30-40 ans qu'on m'énerve en me disant « Ouais, mais tu nous dis que c'est le système, t'es conspirationniste, c'est pour le système. Chacun d'entre nous produit la pollution qu'il regrette, qu'il rejette. Voyons, André, tu fermes pas le frigo assez vite, tu te brosses les dents, tu laisses couler. Et pire que ça, t'as même pas un WC sec chez toi. Enfin, prends conscience que tu es en train de détruire la planète. » Chez moi, je mets dans le frigo des bouteilles en plastique, certes, mais qui sont vides afin que l'air froid du frigo reste dans les bouteilles quand j'ouvre le frigo. Voilà, c'était les petits gestes à Hulot. Hein, l'écologiste, comment on peut dire, il est adorable, hein, il est sympa, mais il fait tout pour éviter le système puisqu'il en vit. Hein, les produits Ushuaïa lui rapportent des millions et des millions chaque année. Et TF1 lui a fait une rente de 30 000 euros par mois, qu'il passe ou qu'il passe pas. Donc c'est sympa, quand vous cumulez tout cet argent, vous avez 8-10 bagnoles, des gros machins, voilà, vous pouvez toujours faire la leçon aux autres. Mais pendant des millénaires, l'énergie, ça a été la force animale. Et là, il n'y a rien de mieux qu'un animal. Il vous fait du caca pour le jardin ou pour l'agriculture. Il vous fait de la viande, il vous fait des vêtements, il vous fait de la, donc cette biomasse, voilà, qui était aussi à l'époque de l'énergie. Par exemple, tout simplement de brûler du bois, mais aussi du charbon de bois. Alors ça, c'est pas très bon pour le climat, mais on n'en faisait pas des milliers de tonnes. Les moulins à eau, c'était parfait. Avec mon père, en 1900, bon allez, je vous dis pas mon âge, on emmenait notre blé depuis Arandon en Isère jusqu'à Thirieux, où il y a toujours un moulin que vous pouvez visiter, qui tourne avec l'eau d'un petit lac. Et on lâche la vanne, la grosse roue à aube se met à tourner, ça marche toujours. Hein. Et vous avez la meule de pierre qui nous blutait qui nous broyait le grain et nous faisait les bonnes farines. On ramenait le soir, hein, on faisait donc 15 bornes avec un cheval et une charrette, blé à l'aller, farine au retour. Merveilleux, truite dans le petit lac. Et puis hein, une odeur et des bruits et tout ça est écologique en diable. Les Romains, si vous allez au moulin de Fontvielle vers Arles, écoutez, mais c'est hallucinant. Les Romains avaient construit 5 moulins à eau dans la grande pente qui est vers le moulin de Fontvielle. 5 moulins à eau, la même eau servait dans 5 moulins. Et bien, la puissance des 5 moulins ainsi installés, tout en bois en plus, pas de plastique, pas de pétrole, était presque équivalente à un grand moulin électrique d'aujourd'hui. Pourquoi on a choisi de faire des trucs uniquement avec du pétrole, du gaz, de l'électricité, puis du nucléaire? Mais personne n'a décidé cela parmi les gens de base à qui on dit « il faut sauver la planète », disais-je. Ce sont des investisseurs, ce sont les capitalistes anglais, les grands nobles anglais qui n'avaient pas assez de ronds avec l'exploitation de leurs serfs, qui à un moment donné se sont dit « avec le charbon, avec l'invention de la machine à vapeur, avec le charbon, on va faire de l'acier et c'est plus facile à faire que de fondre du minerai avec du bois ou du charbon de bois. » Et c'est ainsi qu'ils ont investi. Et comme ils n'arrivaient pas à investir, tu vois Marie, personne n'a choisi en Angleterre d'aller au fond de la mine. Qui a choisi d'aller se tuer sa vie et mourir à 40 ans de la silicose? Et pourquoi ils y sont allés? Ben, tu me diras, ben, ils ont choisi d'y aller pour gagner leur vie, comme tout le monde. Oui, ben non. Non, ils n'ont pas choisi. Vous savez pourquoi ils n'ont pas choisi en Angleterre de fin du 18e, début du 19e, la championne du monde de l'industrie capitaliste, hein, au départ, c'est là que le capitalisme est né. Eh bien, tout simplement, parce que les riches, les nobles, le clergé, les riches laboureurs, les premiers, comment on peut les appeler, commerçants qui avaient fait des ronds avec le commerce des épices et tout ça, ont décidé une loi au Parlement. C'est-à-dire, ça a été astucieux. Ils ont fait voter par des députés qui n'étaient pas des députés du peuple. Aujourd'hui, il n'y en a même plus de peuple à l'Assemblée nationale. Il y a un ouvrier sur 577. Non, zéro. Pardon. Il y a zéro ouvrier et une dizaine d'employés sur 577 députés. On est revenu au temps de l'Angleterre d'il y a 4 siècles. Là, vous aviez que des nobles élus et députés. Mais ils représentaient le Parlement après la Révolution qu'ils ont fait eux, un peu avant nous. Tout en gardant le roi, eux, hein. Nous, on lui a coupé la tête, on est allé un peu plus loin. Et ce Parlement a voté la loi dite des enclosures. Mais oui, tu vois, Marie, la loi des enclosures, c'est l'État anglais, de Grande-Bretagne donc, qui a décidé que tous les prés, les champs, les bois devaient être ceints d'une clôture. Et ben voilà, les pauvres n'ont pas pu mettre de clôture. Et pourquoi ils ne pouvaient pas mettre de clôture? Parce qu'ils étaient habitués depuis des siècles à ce qu'il n'y ait pas de clôture, justement. C'était des terrains communaux. C'était des communaux, comme il y a aujourd'hui. Il y a eu, pendant des siècles, dans toutes les communes de France, des terrains, des forêts, où tu allais faire ton bois gratos, où tu allais à l'étang à carpe, où tu allais dans le verger, où tu allais faire paître tes troupeaux, dans de vastes étendues qui appartenaient à la commune, c'est-à-dire à tout le monde. C'était gratuit. Comme ça, tu pouvais nourrir ta famille. En Angleterre, c'était très répandu. Eh bien, à un moment donné, la loi a été qu'il fallait enclore les résultats des courses avec les enclosures. C'est que les pauvres ont dû migrer. Ils n'avaient plus rien de quoi se nourrir. Et ils sont allés bosser, contraints et forcés, mais libres. Libres, ils avaient le droit de se laisser mourir. Hein. Ils sont allés bosser au fond des mines à Birmingham, à faire de l'acier dans les aciéries, et à crever d'un cancer du poumon à 38 ans, 40 ans, 45 ans, d'à peu près l'âge moyen où on décédait, et la pollution a commencé, le capitalisme a commencé. Qui a choisi le chemin de fer ? Personne. Alors, il y en a qui disent que le chemin de fer est une catastrophe, d'autres qui disent qu'aujourd'hui, si on revenait au chemin de fer, un peu partout dans les, on a supprimé, je sais plus combien, 20 000 kilomètres, on pourrait se déplacer moins dangereusement. Bah oui, c'est quand même l'électricité nucléaire qui fait tourner, et ça c'est dangereux, qui fait tourner les trains. C'est sûr que ça ferait nettement moins de pollution. Voilà où nous sommes rendus, Marie. Il arrive qu'avec la bagnole et l'absence de train, et la décadence de la production du pétrole, surtout la décadence, l'épuisement des ressources minérales et végétales, la crise du système qui tire des milliards de ces banques, mais c'est un argent qui vaut plus rien, qui va nous amener droit dans le mur, avec la dette des entreprises, hein, en France, la dette des entreprises, je viens d'apprendre ça, hein, on en apprend tous les jours, est supérieure à la dette de l'État. 2000 milliards, 2100 et quelques milliards d'euros. La dette de l'État français, plus que son PIB, 2100 milliards. La dette des ménages, alors là je ne sais plus, c'est presque autant. Mais attendez, ça veut dire qu'on a 6000 milliards et qu'on produit seulement 2000 milliards de valeur ajoutée par an. Et là, avec la récession qui arrive, moins 17%, on va donc tomber à 1500 milliards. Mais comment on peut faire? On ne remboursera jamais toutes ces dettes qui ont été accumulées. Donc tout ça, ça ne vaut rien. C'est un système en pleine faillite. C'est même pas la peine de gueuler à bas le capital. Le capital est un système qui nous mène dans le mur au plan écologique et qui, sur le plan économique, est en train de s'effondrer parce qu'il y a baisse de sa rentabilité. Il faut tellement de machines aujourd'hui pour écraser son concurrent que ce capital constant sur le capital variable, c'est-à-dire les salaires, on essaye de les payer le moins possible en allant produire au Pakistan, en Chine. Ben, la Chine, c'est devenu cher, on ne produit plus maintenant parce que leur SMIC est maintenant à 400-500 euros. Il était à 60 euros il y a seulement 25 ans. Donc, vous preniez un Chinois, 60 euros, 60 heures par semaine. Maintenant, c'est le Vietnam. Mais ça monte. Maintenant, le Vietnam aussi s'industrialise. Alors, le Vietnam, c'était pendant que le Chinois montait à 150 euros le mois, le Vietnam était à 60, 70 euros. Ben, maintenant, ça monte aussi. Ben, si ça va pas, on va au Bangladesh. C'est là qu'il y a le plus de misère. Donc, on va faire des chemises au Bangladesh. Et on monte des étages dans l'usine à vêtements et tout s'écroule. Il y a 1200 ouvrières écrasées comme des crêpes sous les pierres, il y a 3000 handicapés et les grandes enseignes françaises qui faisaient fabriquer là-bas nos chemises, nos chaussettes, nos pulls dont on change tous les 15 jours grâce à la publicité, pas tout à fait tous les 15 jours, ces grandes enseignes françaises n'ont toujours pas indemnisé les victimes ou leur ont donné des sommes ridicules. Ah, c'est beau, hein ? Alors que c'est elles qui sont globalement... Donc c'est bien le système qu'il faut incriminer. Voilà. Alors, c'est ce système qui est parvenu à nous faire croire qu'individuellement, on sauvera la planète pendant 30 ans. Donc, même celui qui pisse dans la sciure, qui pédale et qui habite dans une yourte, je suis désolé, il ne sauve pas la planète. Il sauve sa conscience, c'est déjà pas mal. Il rachète sa conscience. Et il est bien dans sa vie, parce qu'en principe, une yourte, tu mets plutôt ça dans la nature. Donc voilà, il y a une autre légende, Marie. C'est que on dit la transition. Mais non, Marie, il n'y a pas de transition. Comment veux-tu qu'il y ait de la transition ? C'est pas toi qui achète les éoliennes. Comment veux-tu qu'il y ait la transition avec une éolienne qui de 250 mètres de haut, dont les pales font 180 mètres de diamètre, 90 mètres par pale, 180 les deux pales, qui a 200 tonnes d'acier dans son tube pour la tenir debout, qui a 900 tonnes de béton dans le sol quand il est mou, enfoncé à 25 mètres de profondeur, qui ruine tous les sous-sols, les petites rivières souterraines et tout ça, ou qui a un socle en béton, si le terrain est dur en montagne, il n'y a plus besoin de creuser. À ce moment-là, on fait une espèce de chape qui fait 22 mètres de rayon, 40 mètres de diamètre. Non, mais c'est hallucinant. la cabine en haut, c'est 40 tonnes la petite cabine qui tient les pales. C'est 200, 300 kilos de néodyme, un métal extrêmement rare. Il faut brasser des millions de tonnes de terres rares, les traiter à l'acide. Ça pollue toutes sortes de régions du monde, notamment en Mongolie intérieure. C'est là que les Chinois empuisent, les multinationales chinoises empuisent le maximum. Tout ça, est-ce que c'est nous qui allons sauver la planète en tant qu'individu ? Culpabiliser l'individu est la stratégie d'un système qui se dédouane de sa responsabilité. Et la légende de la transition énergétique, c'est que la part des énergies fossiles dans le mix énergétique mondial n'a pratiquement pas évolué depuis les années 80. Selon l'Agence internationale de l'énergie, Marie, ces énergies fossiles, elles continuent à fournir l'essentiel de la consommation d'énergie primaire de l'humanité. 85%, un tiers pour le seul pétrole, 28% pour le charbon, 24% pour le gaz naturel. Les énergies renouvelables, toutes les statistiques, le monde ne couvre que 3 à 5% de la consommation mondiale de l'énergie. Et la tendance n'invite pas l'optimisme. Un rapport de juillet 2018 montre en effet que les investissements dans le solaire, l'éolien et la biomasse stagnent partout dans le monde, car ils ne sont pas carrément en déclin, parce que ce n'est pas assez rentable pour le capitalisme. Une éolienne géante, je vous l'ai dit, mais il en faut combien pour remplacer une centrale nucléaire ? 3000, si vous comptez la totalité de la puissance et de la production. Parce qu'une éolienne, c'est intermittent, ça marche quand il y a du vent. Si vous voulez la même production rapportée, par exemple, sur une période d'une année, il en faut 3000 pour compenser une centrale nucléaire. C'est hallucinant. La France veut en installer 18 000. Regardez du côté de Dompnac en Ardèche, ces éoliennes géantes sur les plus belles collines du monde. Enfin, en tout cas, peut-être pas. Il y a l'Andalousie, il y a en Italie, c'est ce merveilleux centre de l'Italie où il y a Suse, où il y a San Gimignano delle Torre, et il y a des paysages magnifiques. Mais mettez des éoliennes géantes de 250 mètres de haut par dizaine et le paysage est mort. Le paysage est mort. Or le paysage, c'est le musée en plein air des gens pauvres. C'est gratuit, c'est beau, ça apaise l'âme. Ça permet de vivre avec le sentiment que le monde est beau et qu'on est dans ce monde-là et que la vie vaut la peine d'être vécue. Vous bousillez tout ça à coups de pylônes électriques ou d'éoliennes, ou de cheminées d'usine qui fument, et vous tuez la psyché, vous tuez la spiritualité du genre humain. C'est ce que fait le système pour qui seul l'argent compte. Voilà. Alors elle me dit, mais non, c'est l'homme. Non, Marie, elle me dit, c'est l'homme. L'homme, il veut toujours s'enrichir. Ben non, Marie, il y a plein de milliers de gens qui n'ont pas voulu s'enrichir, qui ont continué une vie où ils ne sont pas parvenus et où ils ont fonctionné honnêtement. Et le mot d'ordre des révolutionnaires de la Commune de Paris, des ouvriers français, c'était ne pas parvenir. Tu te rends compte, Marie ? Il y a des gens qui ont dit, il ne faut pas parvenir, il ne faut pas devenir contremaître. Hein. Tu gagnes 100 euros, tu es ouvrier de base ou artisan de base, on te propose d'être contremaître à 150 pour faire chier les autres, enfin, pour encadrer les autres, pardon. Et qu'est-ce que tu vas dire, toi ? Ben, tu vas dire non, je ne veux pas devenir contremaître. Moi-même, qui suis à cette radio, je n'ai pas voulu devenir directeur ni autre, je n'ai demandé aucun poste hiérarchique. Nommé comme tel dans la formation, j'ai continué dans la formation et basta. Il ne faut pas vouloir s'enrichir, pas vouloir parvenir, pas sauter les échelons. Aujourd'hui, tout ce qu'on encourage dans l'enseignement, partout, c'est « bats-toi mon fils, deviens un gagneur », comme on dit en anglais. Un gagneur, je vous laisse deviner, puisqu'on parle plus qu'en anglais, ça veut dire gagner des sous, devenir le supérieur, emmerder les autres, comme je l'ai vu récemment dans une grande surface du coin. Le gars qui fait la surveillance me dit, te rends compte, elle a 3600 euros par mois. Ça, c'est une chef. Et elle supervisait tout, s'il y en a qui volaient pas, comment on peut contrôler ceux qui volent dans les grandes surfaces, qui n'ont pas un rond. Donc ils vont piquer des tranches de jambon en les mettant entre deux. Oh là 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 là. Voilà, ça, ce type de boulot qui consiste à surveiller, à punir, à hiérarchiser le travail des autres, c'était tout le contraire de ce que disaient les ouvriers de la Première Internationale. Et comme disaient les vieux films français, un travail honnête qui gagne peu, mais qui te met dans la bonne conscience d'un être droit. Moi, j'ai toujours vu ça chez les petits paysans, chez les ouvriers agricoles dont je suis issu, chez les ouvriers de Nerpic, Merlin-Jorin, à Grenoble, où j'ai fait mes études et où je militais, ou les jeunes femmes qui travaillaient au soutien-gorge, le jabi. Hein. On était souvent à distribuer des tracts, mais les nanas, elles ne pensaient pas à l'époque à grimper dans des bagnoles, à grimper dans des avions. Et aujourd'hui, 1,7 milliard de touristes dans les avions. Qui a créé le tourisme à l'autre bout de la planète? Toi, Marie? C'est toi qui as voulu voir le Machu Picchu? Ou la baie d'Along au Vietnam? Ou la Grande Muraille de Chine? Ou c'est au New York? Ou tu voulais absolument descendre le Nil en mangeant 5 repas par jour? Ou traverser la Méditerranée dans un de ces monstres géants où il y a 5000 croisiéristes et 2000 personnes pour s'occuper d'eux avec 5 repas par jour? Et qui consomme combien? 25 tonnes à 30 tonnes de fuel lourd pour les gros moteurs diesel. Hein, 25 à 30. À l'heure, tu fais une croisière d'une semaine par personne. C'est fabuleux, la pollution. Et on nous a vanté ce rêve de ne se déconfiner en se confinant dans une espèce de tôle d'acier avec la pistoche à 40 mètres au-dessus de la mer et ça fume et ça se balade sur l'océan, tout ça pour regarder un coucher de soleil au milieu de l'océan à 5000 dans une caisse en... Non mais il faut se rendre compte à quel point on nous a transformés et ça s'appelle la catastrophe anthropologique. Comment le système disposant de milliards nous a conditionnés à le consommer, à consommer ses produits et à nous rendre malheureux. Parce que là, maintenant, je pense que nous sommes bien malheureux. Donc voilà, la légende de la transition énergétique, ça ne marche pas. Il faut lire, là je lui ai prêté mon livre, Daniel Tanuro, L'impossible capitalisme vert. Et je cite un passage d'un excellent petit bouquin. Alors quand il coûte pas cher... Faut arrêter de ne regarder que des vidéos sur YouTube, hein. C'est évanescent. Alors que lire un bon bouquin, le méditer, le mâchonner, le re-relire, ça c'est 10 euros. Et ce livre, ça s'appelle... Alors personne n'en fait la pub, hein. Alors moi je vais le faire. « Ne plus se mentir » de Jean-Marc Cancil. « Petits exercices de lucidité partant d'effondrement écologique et social ». Lisez ce petit bouquin en vers. « Ne plus se mentir ». Jean-Marc Cancil, petit exercice de lucidité partant d'effondrement écologique. Voilà, et vous avez là-dedans toutes les données des effondrements qui arrivent, dont on a eu un tout petit aperçu pendant le Covid, comment tout s'arrête. Eh bien, il y a des aspects positifs, c'est pas moi qui vais militer pour qu'on refasse des centaines de milliers d'avions. Hein, je crois qu'on en a 120 000. Je ne vais pas militer pour que la mondialisation remplace, qui était le cas avant, la localisation. Ou le localisme, parce que c'est la mondialisation qui a tué la planète. Or, j'ai fait les premières émissions sur la mondialisation, montrant que c'est le système des milliardaires qui a dit, voilà, on va accroître le taux de profit, hein, c'est-à-dire capital constant sur capital variable, en allant vers le capital variable le moins cher de la planète, la Chine. Et ensuite, par des dizaines de milliers de porte-containers gênants, en fait, il n'y en a que 15 000, des porte-containers géants de 1,5 million tonnes, on a là une consommation de 60 tonnes à l'heure de fuel lourd ultra polluant. Un seul navire pollue plus que 40 millions de bagnoles. Quand un de ces navires de croisière dont je parlais tout à l'heure est dans le port de Marseille, on a une invasion de bronchiolites dans les consultations hospitalières. C'est absolument affolant.
C'était la saine cause pour un bien commun et un monde vivable.